Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette pour les 30 prochaines minutes qui vous accompagne à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. En deuxième partie d'émission, je vous parle d'un tout nouveau site web créé par l'Institut canadien d'information sur la santé qui s'intitule « Votre système de santé » et ça donne accès à une foule de statistiques liées à des indicateurs sur l'état de la santé, la sécurité, l'accès aux soins. Je vais m'entretenir avec le porte-parole de cet Institut canadien d'information sur la santé, Claude Lemay. Mais d'abord, vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que depuis des années, les professionnels de la santé nous disent d'éliminer les gras saturés dans notre assiette afin de protéger notre cœur, d'éviter de développer du cholestérol et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Par contre, en parallèle, il y a d'autres experts en santé qui remettent en question ces recommandations nutritionnelles-là en lien avec les gras saturés, notamment dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, « Le grand mythe du cholestérol » et Dr. Marc Zafran en signe la préface. Je m'entretiens avec lui dans quelques instants. Bonjour Marc Zafran.
Bonjour Marianne.
Donc, vous signez la préface de ce livre-là qui, s'intitule « Le grand mythe du cholestérol ». Donc, on déboulonne un mythe, un livre assez costaud là, à travers près de 330 pages. Par contre, ce n'est pas un phénomène, et je lisais ça si nouveau, il y a un autre médecin qui a signé la préface de ce livre-là, un cardiologue français, Michel de Lorgeril, et qui lui a publié à la fin des années 90 déjà des études qui disaient il y a peut-être d'autres façons de prévenir les maladies cardiovasculaires, entre autres un régime méditerranéen, et il s'opposait déjà un petit peu aux statines et à l'hypothèse là, du cholestérol qui était néfaste sur la santé. Donc, pourquoi maintenant on remet ça? C'est peut-être pour aviser le grand public davantage?
C'est-à-dire qu'une attitude scientifique, ça consiste à toujours remettre en question ce qu'on sait parce que nous sommes des individus qui avons une perception du monde qui est de toute façon limitée et on avance par progrès successifs. Donc, pendant très longtemps, on peut voir le monde d'une certaine manière et puis se dire, non, c'est pas tout à fait comme ça. Par exemple, vous savez, pendant longtemps, on disait Pluton, c'est la 9e planète du système solaire. Puis maintenant, on dit non, c'est pas une planète. Mais il a fallu qu'on ait les instruments pour dire, non, c'est plus une planète. Bon. Et là, c'est la même chose. Moi, j'ai commencé à travailler dans une revue dans les années 80 qui s'appelait la revue Prescrire, qui était déjà très critique sur certaines approches vis-à-vis de l'industrie, et en particulier du fait que l'industrie avait normalisé les quantités de cholestérol qu'il fallait avoir dans le sang. Alors, qu'est-ce que c'est que le cholestérol? Le cholestérol, c'est une lipoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui se comporte comme un corps gras, qui ne se mélange pas à l'eau, qui peut donc flotter dans le sang et qui sert à transporter des choses, en particulier des corps gras, mais aussi des hormones, parce que les hormones, c'est aussi fait à partir de molécules qui ne sont pas solubles dans l'eau. Et on fabrique du cholestérol, il va tapisser les membranes des cellules, parce que les cellules elles contiennent de l'eau, mais pour empêcher l'eau de sortir, il faut qu'il y ait une membrane qui l'empêche de sortir, qui laisse passer des choses, mais pas l'eau, etc. Donc c'est une molécule physiologique, normale. Mm-hmm. On en fabrique.
Tout le monde en fait.
Tout le monde en fait. Tout le monde en fait normalement, parce qu'elle a des fonctions, encore une fois, dans la structure de l'organisme. Bon. Quand on a cherché à diminuer les maladies cardiovasculaires, on a mesuré plein de choses. Et puis on a mesuré en particulier les graisses du sang parce que ce qui provoquait les maladies cardiovasculaires, c'était des dépôts de graisse dans les artères, en particulier aux bifurcations. Mm-hmm. Ah, donc on s'est dit, c'est peut-être quand il y a trop de graisse, etc. Bon, donc, c'est pour ça qu'on a dit peut-être qu'il faut faire baisser le cholestérol. Maintenant, on se rend compte que, on a mis quand même 30 ou 40 ans, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, mais surtout qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs vraiment prédictifs des maladies cardiovasculaires. Et les principaux facteurs aujourd'hui, c'est le tabac. Parce que ça,
il revient toujours.
Il revient toujours. Il n'y a pas de discussion là-dessus et personne ne discute là-dessus. L'hypertension non contrôlée qui semble bien fragiliser les vaisseaux. Et puis aussi le diabète. Parce que les sucres, l'excès de sucre dans les artères fragilise les artères. Et il semble bien, comme d'ailleurs on le sait depuis assez longtemps, que le cholestérol, les graisses élevées dans le sang, ce soit un facteur très minime qui vient bien après tous les autres. Donc à l'heure actuelle, les gens qui examinent ça de façon non partisane et surtout de façon non commerciale disent, attendez, si vous cessez de fumer, si vous luttez contre l'hypertension quand elle est élevée, vous mangez moins de sel, si vous perdez du poids, parce que le poids est un facteur de diabète important, et que donc vous luttez contre l'apparition d'un diabète, là, la prévention des maladies cardiovasculaires va se faire beaucoup mieux. Mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments.
Oui, et voilà.
Voilà.
Alors, cette prise de position sur les statines.
Voilà. Alors, donc, d'où la prise de position sur les statines. À l'inverse, si on dit, il suffit de faire baisser le cholestérol et qu'on donne des statines à tout le monde, comme avec n'importe quel médicament, on va avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont être traités pour rien, puisqu'ils n'ont pas vraiment besoin qu'on leur fasse baisser le cholestérol. Il y a aussi beaucoup de gens qui auront des effets secondaires importants. Et les statines donnent des effets secondaires importants, elles donnent des effets secondaires musculaires, peuvent donner des effets secondaires neurologiques. Ça peut faire baisser la libido chez les hommes.
La mémoire. Hein.
La mémoire, voilà, neurologique avec des troubles de la cognition. Tout simplement parce que, effectivement, ça contre-agit contre, justement, des molécules dont on a besoin dans notre organisme. Alors, le livre, il est là pour dire, tout ce qu'on a dit, on peut le réexaminer. Et il y a des arguments pour dire, c'est pas aussi simple que ça. Tout simplement parce que le savoir a augmenté et qu'un savoir qui est orienté vers un mieux-être de la population, mais pas vers le fait de vendre des produits, c'est un savoir qui est plus neutre et qui est plus, crédible que le savoir qui consiste à dire, prenez donc ma pilule et ça va aller mieux.
Oui. En parcourant le livre, on le disait, il y a une prise de position sur les statines, et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, mais pourquoi les médecins en prescrivent si ce n'est pas si efficace que ça, si ça a des effets secondaires qui sont révélés. Vous avez une théorie intéressante là-dessus, Marie-Zé France?
Je pense que c'est assez simple. On forme les médecins, si vous voulez, à la fois pour être une sorte d'autorité morale, d'avoir un statut très élevé, avoir une autorité morale. Et donc, si vous avez une autorité morale importante, vous avez une responsabilité importante. Si vos maîtres, c'est-à-dire vous êtes médecin, mais vous avez eu des maîtres, vous avez des mentors, etc. Si vos mentors vous disent, il faut que tu fasses baisser le cholestérol de tes patients, sinon ils vont mourir, vous n'allez pas dire non.
Ouais. Et vous allez tenter de trouver un moyen pour le faire.
Voilà. Ouais. Et donc, vous allez essayer de convaincre vos patients de prendre des médicaments contre le cholestérol. Si vous êtes surchargé de travail, vous n'aurez pas le temps de lire la littérature qui dit etc. C'est peut-être pas aussi... Bon. Moi, j'ai eu de la chance quand j'étais jeune médecin et que je commençais à travailler et que je n'avais pas trop de travail. J'ai aussi commencé à faire ma formation critique dans cette revue. Ce n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde, mais ça m'a armé, si vous voulez, d'un esprit critique qui m'a permis d'abord de m'affranchir de cette peur qu'on faisait peser sur nous, les étudiants en médecine et les jeunes médecins, de voir les gens mourir parce qu'on ne faisait pas ce qu'il faut. Et puis d'autre part, d'avoir une attitude qui était une attitude plus pragmatique, plus au jour le jour et moins phobique, moins autoritaire. Alors, quand les médecins ne sont pas formés comme ça, quand ils ne sont pas formés au sens critique et quand ils ne sont pas accompagnés au sens critique par des gens qui eux-mêmes ne sont pas inquiets, ils vont prescrire de manière phobique, c'est-à-dire inquiète, c'est-à-dire excessive. Par bonne volonté. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont payés. C'est parce qu'ils veulent le bien des gens, mais on les a induits vers une manière de faire le bien qui n'est pas appropriée.
Oui. Le livre déboulonne des mythes et notamment celui du bon et du mauvais cholestérol.
Ben oui, parce que, si vous voulez, c'est comme les... Quand vous fabriquez un produit... C'est comme les lecteurs de DVD ou de Blu-ray ou les magnétoscopes autrefois. Il faut que vous proposiez des nouveaux modèles aux gens qui vont les acheter.
Okay.
Parce que si tous les modèles de lecteurs de DVD ou de Blu-ray étaient identiques, il n'y aura pas de compétition. Mmh. Donc, les industriels, pour pouvoir justifier le fait qu'ils sortaient de nouvelles molécules, étaient obligés d'inventer des nouvelles raisons de donner des molécules qui avaient des actions un peu différentes. Et ça, dans le domaine de la pharmacologie, c'est un truc qui est connu depuis 40 ans. Hein. C'est ce qu'on appelle fabriquer des me-too. C'est-à-dire, quand un industriel vient avec un produit pour un sujet... Eh ben, les autres industriels, ils veulent sortir un produit qui va avoir le même effet, mais il va dire oui, mais le mien, il est mieux parce qu'il agit sur telle ou telle chose.
Oui, il est moins cher.
Voilà. Il est moins cher, c'est bien, mais il est aussi, il agit, par exemple, il agit moins sur le cœur, mais plus sur les artères. Il agit plus sur le, mais il n'a pas d'effet secondaire, etc. Donc, on est obligé, pour pouvoir justifier d'avoir des médicaments nouveaux à chaque fois et donc de vendre toujours des médicaments, d'avoir des nouveaux motifs et donc de décortiquer. Le cholestérol en l'occurrence, mais en fait maintenant il y a de plus en plus de gens qui disent mais c'est même pas la peine de le doser, le cholestérol, c'est même pas la peine de se casser la tête à savoir si vous avez du bon ou du mauvais. Faut savoir aussi que les gens qui vendent des machines pour doser le cholestérol ont intérêt à ce qu'on dose le cholestérol.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Donc, il y a une industrie extrêmement importante en matière de santé qui a intérêt à ce que les gens consomment. Et ils consomment des tests, ils consomment des consultations auprès des médecins spécialistes, ils consomment des médicaments, ils consomment des aliments. L'industrie agroalimentaire, elle est très contente qu'il y ait ça aussi, parce que ça leur permet de fabriquer des produits qui sont nouveaux. Et qui... C'est un commerce, la santé.
Et d'inscrire des produits sans grains.
Voilà.
La différence, et ça m'amène à cette question-là, parce que pour moi, c'était pas si clair qu'est-ce qui était un gras saturé, qu'est-ce qui était un gras trans. Je sais que c'est différent, mais ça m'a amené quand même à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans mon frigo, à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans mon garde-manger, de faire « OK, il y en a-tu? Non, il n'y en a pas. » On les retrouve où, les gras saturés?
En principe, les gras saturés, c'est dans les graisses animales. C'est les graisses animales. Mm-hmm. Les gras saturés, c'est plutôt les graisses végétales. Mais là encore, c'est des distinctions qui sont des distinctions d'épicerie.
OK.
C'est-à-dire que... Il semble maintenant, si vous voulez, que ce qui est véritablement délétère, ce n'est pas le fait qu'il y a des graisses dans l'alimentation, c'est le fait que tous les aliments fabriqués sont de plus en plus enrichis en sucre. C'est ça qui est responsable de l'épidémie d'obésité. Et l'épidémie d'obésité favorise l'hypertension et le diabète.
Voilà.
Et donc là, ça augmente les risques cardiovasculaires. Il semble maintenant, il y a des expériences qui ont été faites en faisant en donnant des régimes très riches en graisse de toutes sortes, et puis des régimes très riches, très pauvres en graisse. Et en fait, il y a même des gens qui mangent beaucoup de graisse et qui perdent du poids. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas de sucre.
Ah oui. Ah, donc le sucre a plus d'incidence sur le poids
et
que
il
le
semble
gras.
Mais le sucre, le problème, c'est qu'on n'a pas pu étudier le sucre pendant longtemps, parce que le sucre, c'est une force alimentaire très forte. C'est un produit qui fait partie de l'industrie agroalimentaire de manière massive. Si on se dit qu'il ne faut plus manger de sucre et qu'on demande à l'industrie agroalimentaire de revoir sa fabrication de produits, sur le plan économique, c'est très compliqué pour eux. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile d'utiliser le sucre que de ne pas l'utiliser.
Oui. Donc, plus facile de protéger cette industrie-là ou la consommation de sucre que le diaboliser.
Exactement, oui. Exactement. Alors, aujourd'hui, moi, je dirais... il faudrait que j'aimerais écrire un livre qui s'appelle... Pas de panique, vous allez bien. Et sur le plan de l'alimentation, je dirais qu'il faut revenir à un principe de base, qui est un principe assez simple, qui était le principe que mon père, qui était médecin, donnait. C'est si vous mangez de tout en quantité modérée, si vous n'êtes pas excessif dans aucun aliment, il est probable que votre alimentation est une alimentation équilibrée. Et de tout en quantité modérée, ça veut dire ne pas dépasser, il ne faut pas manger 5000 calories par jour. Je veux dire, c'est aberrant. Il vaut mieux être un petit peu en surpoids que trop en sous-poids, parce que par exemple, quand on est malade, les gens qui sont légèrement en surpoids se défendent mieux, ils ont des réserves, que les gens qui ont 3 kilos ou 5 kilos de moins que la moyenne. Il vaut mieux, voilà, et l'immunité, par exemple le cholestérol, il participe à la fabrication et à l'entretien des cellules et de l'immunité. Il vaut mieux être un petit peu en surpoids, parce qu'on se défend mieux contre les maladies que si on est trop maigre. Donc vous voyez, mais évidemment c'est moins spectaculaire de dire il faut être modéré en tout que de dire il faut pas faire ci ou il faut faire ça. C'est plus compliqué d'être entre les deux.
Et en même temps, quelqu'un qui consulterait un médecin parce que le taux de cholestérol est élevé, on a une crainte, on prescrit des statines, nuirait à sa santé.
Oui, même moi, ce que je conseille aux gens qui me posent la question, c'est on n'a pas montré que faire baisser le cholestérol était utile si on n'est pas un homme. Chez les femmes, par exemple, on ne va pas montrer. Un homme de plus de 50 ans qui a fait un accident cardiovasculaire auparavant, qui fume, qui a une hypertension ou qui a du diabète. Mmh. Si vous n'êtes pas tout ça, ça ne sert à rien de doser votre cholestérol. Parce que de toute façon, ça sert à rien de le faire bouger, donc ce n'est pas la peine de le doser.
Ouais.
Bon. Et moi, personnellement, moi qui n'ai aucun de ces facteurs de risque-là, puis je n'ai jamais fumé, enfin j'ai dû fumer 3 jours dans ma vie, depuis 20 ans, je n'ai pas dosé mon cholestérol.
Oui, parce que ce n'est pas nécessaire.
Parce que ce n'est pas nécessaire. Ouais. Parce que ce n'est pas nécessaire.
Mm-hmm.
Consommer des médicaments sans nécessité, encore une fois, ça coûte cher individuellement et à la société, mais c'est aussi potentiellement, vous savez, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'accidents liés aux médicaments chaque année en Amérique du Nord.
Qu'est-ce que vous entendez par accident?
Un accident, ça peut être des troubles du comportement. Vous êtes au volant, vous ratez un virage.
Ah, oui, ça peut être
une somnolence. Oui, peut être un accident. Ça peut être un accident cardiaque. Vous savez que si, par exemple, vous avez un cœur fragile et que vous prenez du Viagra, vous pouvez faire un infarctus. Ça peut être de la somnolence. Moi, quand j'étais médecin de famille, je suis allé à de nombreuses reprises ramasser des vieilles dames qui dormaient dans la journée. Alors tout le monde pensait qu'elles avaient fait un accident vasculaire. C'était trompées de comprimés, elles avaient pris leurs comprimés pour dormir.
Les somnifères.
Et puis elles avaient des trous de mémoire parce qu'elles prenaient des comprimés pour dormir, bon, etc. Vous voyez, les accidents médicamenteux, les allergies, etc., sont très nombreux. Donc, les médicaments, moi je ne suis pas anti-médicaments, hein, je veux dire, il y a des médicaments très utiles, mais il faut les utiliser à bon escient et quand on a vraiment besoin.
Oui, tenter d'avoir les bonnes informations.
Exactement.
Avant de les prendre, de les consommer. Dernière chose, avant de se quitter, Marc Zafran, est-ce que, selon vous, les recommandations de votre collègue, le docteur Michel Delorgeril, sur le régime méditerranéen est adéquat? L'alimentation,
tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, on a observé que les gens qui... mangent beaucoup de végétaux, un peu de protéines animales et de l'huile d'olive, vivent plus longtemps que les autres. Donc, ça ne peut pas être mauvais. Simplement, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a sûrement des facteurs génétiques aussi là-dedans.
Ah oui.
Bon, c'est-à-dire que c'est sûrement bon pour tout le monde, mais les résultats de ce type de régime ne sont probablement pas les mêmes pour tout le monde parce que nous n'avons pas au départ... le même bagage génétique. Et ça, on est très inégaux les uns des autres à cause de ça, et c'est très difficile d'y faire quelque chose.
Et les femmes et les hommes sont inégaux également, ce qui a trait aux maladies cardiovasculaires.
Les femmes et les hommes sont inégaux. Les femmes sont protégées justement parce qu'elles ont des hormones qui sont véhiculées par le cholestérol. Elles sont protégées beaucoup plus longtemps que les hommes. Puis il y avait aussi le fait que les femmes fumaient moins que les hommes.
C'est moins le cas maintenant.
Oui, mais les hommes ont moins fumé, donc forcément, ça s'égalise un peu.
Oui. Toujours un plaisir de vous parler,
Merci
Marc Zafran. Je rappelle que vous avez signé la préface du livre « Le grand mythe du cholestérol » qui est écrit par les docteurs Steven Sinatran et le docteur Johnny Borden. Et c'est publié chez les éditions Édito. Et je rappelle votre site web www.martinwinkler.com. Merci beaucoup.
Merci Marianne, au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour Claude Lemay.
Bonjour Madame Paquette.
Vous êtes le porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé qui a lancé dernièrement un nouvel outil un site web qui permet aux Canadiens de comparer les soins offerts chez eux, mais aussi on compare à d'autres hôpitaux, on compare aussi la santé des habitants d'une région. Moi, je me suis amusée d'aller voir ce qui se passe dans la région des Laurentides, au sein de l'hôpital où je suis née, où mon frère travaille maintenant à Mont-Laurier. Et ça m'a un petit peu inquiétée de voir ces chiffres-là, de voir, entre autres choses, que l'accès à un médecin régulier de 71,8% dans la région des Laurentides comparé au reste du Canada, 84,5%, notamment de voir que tout ce qui est lié au tabagisme, à l'obésité et bien sûr à l'espérance de vie, en fait, tabagisme et obésité, c'est plus élevé si on compare au reste des Canadiens et bien sûr l'espérance de vie en parallèle est plus écourtée. Mais ce n'était pas pour inquiéter les gens que vous avez lancé cet outil-là, M. Lemay.
Non, pas du tout. L'accès aux services de santé et les coûts des services de santé, c'est quelque chose qui est d'intérêt pour tous les Canadiens, puisqu'on sait qu'il y a une partie importante de nos taxes et de nos impôts qui va à la gestion du système de santé. Alors, notre but était de rendre facilement accessible au grand public une série d'indicateurs. Vous savez, les systèmes de santé, c'est très complexe. Il y a de multiples intervenants, de multiples facteurs. Alors, on a choisi certains indicateurs qui donnent une vue globale, si vous voulez, de l'ensemble des phénomènes autour de la santé. Donc, le but de ce site web-là, c'est d'aider les citoyens à s'informer et à en apprendre davantage sur ce qui existe près de chez eux.
Mm-hmm. Je m'intéresse à la façon de faire, la façon que vous avez adoptée pour créer ce site-là. Vous n'avez certainement pas visité tous les hôpitaux du pays.
Ça dépend. Donc, pour ce qui est des données que nous recevons, dépendant des données, on a différentes sources d'informations. Par exemple, vous avez fait allusion au fait qu'il y a plusieurs hôpitaux là-dedans. De fait, on a des données sur 600 hôpitaux au Canada.
Okay.
Nous recevons, de la part de ces hôpitaux-là, des données détaillées sur chacune des hospitalisations qui se fait au Canada et on reçoit ça depuis 30 ans. Alors nous, à partir de ces données-là, on analyse les maladies, les diagnostics, la durée de séjour, combien de temps les gens ont passé là et ça sert à produire certains de ces indicateurs-là.
Et le bilan que... Bon, c'est sûr que c'est un petit peu tôt, là, c'est assez récent, mais le bilan que vous en faites maintenant, si on compare, par exemple, la santé des Québécois comparée à celle des autres Canadiens ailleurs en province?
Ça dépend. Vous l'avez mentionné, par exemple, dans certaines régions du Québec, le tabagisme est encore important. Donc, quand on regarde les différents indicateurs, on observe des grandes différences d'une province à l'autre, et d'une région à l'autre à l'intérieur des mêmes provinces. Par exemple, au niveau de l'obésité, le Québec et la Colombie-Britannique ont depuis longtemps présenté une image positive.
Mm-hmm.
Donc, le taux d'obésité au Québec et en Colombie-Britannique, il est plus bas que la moyenne canadienne, et ça fait des années que c'est comme ça.
Mm-hmm.
Par contre, on fume encore au Québec davantage que dans certaines autres régions du Canada. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution au fil des années également.
Oui.
Bien que l'obésité soit moins fréquente, moins prévalente au Québec et en Colombie-Britannique qu'ailleurs, elle est en augmentation, partout en Amérique du Nord.
Oui, pardonnez-moi, j'imagine que qu'est-ce qui sera intéressant également à voir, peut-être à moyen et long terme, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui se passe bien, par exemple, si on prend cet exemple de la Colombie-Britannique où le taux d'obésité est peut-être moins élevé, et se dire qu'est-ce qu'ils font de différent pour que ça se passe bien, finalement.
Oui, effectivement. Donc, ce site-là, il sert aussi à faire ceci. Il n'y a pas toutes les réponses quand on regarde des indicateurs comme ça. Il n'y a pas toutes les explications. Mais ce que ça nous donne, c'est des idées ou des pistes de réflexion ou des pistes de recherche. Donc, quand on voit, par exemple, que certaines provinces ont fait des améliorations importantes au niveau du tabagisme, ça nous dit qu'il y a des interventions qui ont été plus efficaces dans cette région-là que dans d'autres. Et à ce moment-là, les décideurs, les gens au niveau de l'organisation des services de santé, des services de prévention, peuvent s'inspirer de ce qu'on voit ailleurs. Donc, le fait de comparer à l'échelle du Canada, comme ça, donc toutes les régions ensemble ou 600 hôpitaux entre eux, ça donne la possibilité aux hôpitaux d'identifier ceux qui semblent avoir des performances supérieures sur certains indicateurs et de s'inspirer de ce qu'ils font.
On en parle de ces indicateurs-là, il y en a 37, c'est quand même beaucoup. Quels sont peut-être les plus importants pour donner une idée aux auditeurs qui n'ont pas consulté le site?
Vous savez, ça dépend de nos intérêts, ça dépend de nos besoins. Nous, au niveau du Québec, ici, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, c'est le cas dans la Naudière, mais c'est le cas dans le Québec partout quand on le compare aux autres. On a plus de difficultés à avoir accès à un médecin de famille au Québec ici qu'ailleurs. Ça existe depuis longtemps. Donc, ça veut dire que nous, on a une préoccupation par rapport à ça que d'autres provinces ne vivent pas. Par contre, comme je mentionnais, l'obésité est très, très prévalente à Terre-Neuve avec le tabagisme. Alors, eux, ils peuvent prévoir qu'il y aura des problèmes de santé liés à ces deux comportements de santé-là dans les prochaines années. Donc, encore là, c'est en regardant les résultats, en les comparant. Le site Internet permet de comparer visuellement les provinces ou les régions ou les hôpitaux, dépendant de l'indicateur, sur les différents résultats. Alors, c'est ça qui est l'intérêt de ça, c'est de l'explorer, de le manipuler, de le regarder et d'aller s'intéresser à tous ces indicateurs-là, les uns après les autres. Et là, on voit les endroits où il y aurait des améliorations possibles.
On comprend que le site s'adresse au grand public autant qu'aux spécialistes de la santé, aux directions des hôpitaux. Je m'intéresse, en terminant, M. Lemay, au grand public. À quel moment consulter ce site-là? En fait, pour qui ça peut aider?
Je pense que il peut toujours être d'intérêt parce qu'il donne une information générale. Je pense que la mise en garde, c'est qu'on peut pas utiliser ce site-là pour magasiner, si je peux dire. Par exemple, il y a des données dans le site sur les temps d'attente à l'urgence. Eh bien là, on n'ira pas sur ce site-là pour magasiner et voir dans quelle urgence le temps d'attente aujourd'hui est plus bas. Alors, on peut pas utiliser le site pour faire cela. On peut utiliser le site pour s'informer comme citoyen, pour mieux comprendre comment les soins sont organisés. Et quand on veut faire des mouvements de citoyens, par exemple, bien, on sait qu'au Québec, tous nous devons être préoccupés par le fait que l'accès aux médecins de famille est difficile au Québec, plus difficile que partout ailleurs. Donc, ça nous donne à nous tous, en fait, une priorité d'action, si je peux dire. C'est à ça que ça sert, un site Internet comme ça.
Donc, www.votresystemedesante.ica, ça sera bien sûr sur notre site. Claude Lemay, porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Je vous en prie, au revoir.
Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était Marianne Paquette. Et puis, je vous salue. On se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre au www.canalm.org. Bye-bye!